Chapitre 40. Trop tard, resté abandonné sur la table. Tous ses manuscrits étaient revenus. Le seul qu'il persista à envoyer était l'éphémère de Brissenden. Sa bicyclette et son costume noir étaient à nouveau au clou, et le loueur de machines à écrire recommençait à le harceler. Mais ces détails ne le tracassaient plus. Il cherchait une nouvelle orientation et, tant qu'il ne l'aurait pas trouvée, sa vie continuerait à stagner. Après plusieurs semaines, ce qu'il attendait se produisit. Il rencontra Ruth dans la rue. Elle était accompagnée de son frère Norman. Ils firent d'abord mine de l'ignorer, puis Norman tenta de le repousser d'un geste. « Si vous importunez ma sœur, j'appelle un agent, » dit-il, menaçant. « Elle ne veut pas vous parler et votre insistance est une insulte. » « Si vous ne vous écartez pas, vous aurez une bonne raison de l'appeler votre agent, et votre nom sera dans le journal, » répondit Martin sur un ton farouche. « Allez, poussez-vous et appelez la police si ça vous chante. Je veux parler à Ruth. » Il se tourna vers elle. « Je veux l'entendre de votre bouche. » Elle était pâle et tremblante, mais soutint son regard. « Répondez à la question que je vous ai posée dans ma lettre. » Norman eut un geste d'impatience, mais Martin le calma d'un coup d'œil impérieux. Elle secoua la tête. « Vous agissez de votre propre volonté ? » demanda-t-il. « Oui, » répondit-elle d'une voix basse, mais ferme et déterminée, « de ma propre volonté. Vous m'avez tellement humiliée que je n'ose plus revoir mes amis. Ils parlent tous de moi, je le sais. Je n'ai plus rien à vous dire. Vous m'avez rendue très malheureuse et j'espère ne jamais vous revoir. « Ami, ragot, mensonge de journaliste, l'amour est plus fort que ça tout de même. J'en viens à croire que vous ne m'avez jamais aimé. » Une rougeur teinta sa pâleur. « Après ce qui s'est passé, » murmura-t-elle, « Martin, vous ne savez pas ce que vous dites. Je ne suis pas la première venue. » « Vous voyez bien qu'elle ne veut plus avoir affaire à vous, » lança Norman en prenant sa sœur par le bras. Martin s'écarta pour les laisser passer, en cherchant distraitement dans sa poche le tabac et le papier à cigarette qui ne s'y trouvait pas. La route était longue jusqu'à Auckland Nord, mais il couvrit la distance sans s'en rendre compte, comme un somnambule. Arrivé dans sa chambre, il s'assit sur le bord du lit et promena des yeux hagards autour de lui. Apercevant trop tard sur la table, il tira la chaise et prit sa plume. Il n'aimait pas l'inachèvement, et il y avait là quelque chose d'inachevé. Il en avait différé l'accomplissement en attendant l'accomplissement d'autre chose. À présent que cette chose était terminée, il lui fallait s'appliquer à finir sa seconde tâche. Que ferait-il ensuite? Il l'ignorait encore. Il savait seulement que sa vie venait d'atteindre un point limite. Une page était tournée. En bon ouvrier, il allait maintenant s'atteler à la besogne suivante. Il n'était pas curieux de connaître son avenir. Il serait renseigné bien assez tôt sur ce que les temps futurs lui réservaient. Quoi qu'il en fût, cela lui importait peu. Plus rien ne lui importait. Pendant 5 jours, il travailla à trop tard, sans sortir de sa chambre, sans voir personne et presque sans manger. Le matin du 6e jour, le facteur lui apporta une lettre du rédacteur du Parthénon. Un bref coup d'œil lui apprit que l'éphémère était accepté. « Nous avons soumis le poème à Cartwright Bruce, » disait le rédacteur, « et son rapport a été si favorable que nous sommes impatients de le publier. Notre numéro de juillet étant déjà bouclé, il ne pourra malheureusement paraître que dans le numéro d'août. Veuillez transmettre nos compliments à M. Brissenden et, s'il vous plaît, nous faire parvenir sa photographie et une notice biographique par retour du courrier. Si notre prix ne vous convient pas, ayez la bonté de nous le faire savoir par télégramme et de nous indiquer la somme qui vous satisferait. » Le prix offert étant de 350 dollars, Martin estima qu'il était superflu d'envoyer un télégramme. Avant tout, il fallait obtenir le consentement de Brissenden. Eh bien, il avait eu raison, après tout. Voilà au moins un rédacteur qui savait reconnaître le talent quand il le voyait. Et le prix était mirifique, même pour le poème du siècle. Quant à Cartwright Bruce, Martin savait qu'il était le seul critique pour lequel Brissenden eut quelque considération. Il sauta dans le tramway, et tandis qu'il voyait défiler les maisons et les carrefours, une étrange nostalgie monta en lui. Pourquoi le succès de son ami et la part qu'il avait prise à cette victoire ne le réjouissait-il pas davantage? Le plus grand critique des États-Unis avait apprécié le poème, lui donnant raison indirectement. Et pourtant ses sentiments étaient mitigés. L'enthousiasme l'avait quitté. L'idée de revoir Brissenden ne charmait plus que la bonne nouvelle qu'il apportait. Depuis 5 jours, il n'avait pensé qu'à trop tard et ne s'était pas inquiété de Brissenden, qui ne lui avait plus donné signe de vie. Il avait vécu dans le brouillard, oubliant jusqu'à son meilleur ami. Il en avait honte, bien sûr, mais sans plus. Son affect était émoussé. Les seules émotions qu'il éprouva encore étaient d'ordre littéraire et avaient tout trait à l'écriture de trop tard. Pour le reste, il était dans une sorte d'état second. La vie qui défilait derrière la vitre du tramway semblait lointaine, irréelle, et il n'eût même pas tourné la tête si le grand clocher de l'église qu'il venait de dépasser se fût brusquement écroulé. Il monta en hâte à la chambre de Brissenden et redescendit tout aussi vite. La chambre était vide. Tous les bagages avaient disparu. « Brissenden a-t-il laissé une adresse ? » demanda-t-il au réceptionniste. L'homme le regarda bizarrement. « Vous n'êtes pas au courant ? » fit-il. Martin secoua la tête. « C'était dans tous les journaux. Il a été trouvé mort dans son lit. Suicide. Une balle dans la tête. » « L'enterrement a déjà eu lieu ?» Martin ne reconnut pas sa propre voix, qui lui sembla venir de loin, d'infiniment loin. « Non. Le corps a été expédié dans l'Est après l'enquête. Les notaires de la famille ont pris les dispositions nécessaires. » « Ils n'ont pas perdu de temps, dit-on. » « Oh, tout de même. C'est arrivé il y a 5 jours. »«
5 jours ?»«
Oui, 5 jours. »
« Ah !»
Et Martin s'en retourna comme il était venu. Au coin, il s'arrêta à la Western Union pour envoyer un télégramme au Parthénon, les priant de procéder à la publication du poème. Il n'avait que 5 cents en poche pour payer son trajet de retour et il laissa donc le message aux frais du destinataire. Dès qu'il arriva dans sa chambre, il se remit au travail. Les jours et les nuits passèrent. Il ne quittait plus sa chambre, ne sortait que pour aller chez le prêteur, ne prenait plus d'exercice, mangeait méthodiquement lorsqu'il avait quelque chose à mettre dans sa casserole et jeûnait tout aussi méthodiquement quand il n'avait rien. Bien que son histoire fût déjà composée dans sa tête, il décela des possibilités nouvelles au fil des chapitres et imagina de nouveaux développements qui en augmentèrent la portée mais nécessitèrent 20 000 mots supplémentaires. Son perfectionnisme et son credo artistique le poussait à traquer l'expression idéale. Il travaillait en plein vertige, indifférent au monde extérieur, tel un fantôme rompu à tous les pièges littéraires qui le faisaient autrefois chuter. Quelqu'un avait dit qu'un fantôme était l'esprit d'un défunt trop étourdi pour s'apercevoir qu'il était mort. Cela le fit méditer un instant. N'était-il qu'un mort étourdi, lui aussi? Un jour, enfin, trop tard fut terminé. Le loueur de machine à écrire, venu récupérer l'objet, voulut bien attendre, assis sur le lit, que Martin eût achevé de taper les dernières pages du dernier chapitre. Quand il écrivit le mot « fin » en lettres capitales, c'en était vraiment fini pour lui. Il regarda presque avec soulagement le créancier emporter la machine et s'affala sur le lit. La faim l'affaiblissait. Il n'avait rien mangé depuis 36 heures, mais il n'y pensait pas. Il resta étendu sur le dos, les yeux clos, laissant l'engourdissement envahir lentement ses membres et sa conscience. Dans un demi-délire, il se mit à marmonner un poème anonyme que Brissenden aimait lui citer. Maria, qui écoutait anxieusement à sa porte, fut troublée par son soliloque monocorde. Les mots en eux-mêmes n'avaient pas de signification pour elle, mais le fait qu'il parlât tout seul en avait beaucoup. « J'ai fini, » disait le poème. « J'ai fini, j'ai posé mon luth, ma chanson se meurt, comme une ombre bleue planant sur les trèfles. J'ai fini, j'ai posé mon luth, je chantais jadis comme l'alouette chante dans les haies. Me voilà muet, ma gorge est tarie, je n'ai plus de chant. J'ai fini, j'ai posé mon luth. » C'en était trop pour Maria. Elle courut à son fourneau et remplit un grand bol de soupe en y mélangeant tous les restes de viande hachée et de légumes que sa louche put racler au fond de la cocotte. Martin s'assit et se mit à manger en rassurant Maria, lui certifiant entre les cuillerées qu'il n'avait pas déliré et n'avait pas la fièvre. À nouveau seul, il rêvassa sur le bord du lit, les épaules voûtées, et contempla le vide jusqu'à ce que son œil éteint se posa sur l'emballage froissé d'un magazine arrivé par le courrier du matin et qu'il n'avait pas encore ouvert. Ce fut comme un éclair dans son cerveau obscurci. Le Parthénon. Le Parthénon du mois d'août. L'éphémère devait y être imprimé. Que Brissenden était-il là pour le voir? Il tourna les pages et tomba en arrêt. L'éphémère était en bonne place, avec un somptueux en-tête et des illustrations à la manière de Beardsley dans la marge. D'un côté de l'en-tête, il y avait la photographie de Brissenden et de l'autre, celle de Sir John Valeo, l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Une notice préliminaire citait une déclaration de Sir John Valeo affirmant qu'il n'y avait pas de poète en Amérique et la publication de l'éphémère était pour le Parthénon une façon de lui répondre « Tiens, prends ça, Sir John Valeo ». Cartwright Bruce était présenté comme le plus grand critique américain et l'on reproduisait son commentaire dans lequel il proclamait que l'éphémère était le plus grand poème jamais écrit en Amérique. L'avertissement du rédacteur se terminait ainsi « Nous n'avons pas encore pris la mesure de toutes les qualités de l'éphémère. Peut-être n'y parviendrons-nous jamais, mais nous l'avons maintes fois relu en nous émerveillant des trouvailles de Brissenden, en nous demandant où il était allé chercher de tels mots et comment il avait pu si bien les agencer entre eux. » Suivait le poème. « Tu as bien fait de mourir, mon vieux Brice, » murmura Martin. Le magazine lui tomba des mains. La médiocrité et la vulgarité de cette présentation lui donnaient la nausée, et il n'avait pas souvent la nausée. Il eût voulu s'indigner, mais n'en avait même plus la force. Il était trop las. Son sang était trop glacé pour lui monter à la tête. Et puis, quelle importance après tout. Tout cela allait de pair avec ce que Brissenden pensait de la société bourgeoise. Pauvre Brice, il ne m'aurait jamais pardonné. Se levant avec effort, il s'empara d'une boîte qui avait autrefois contenu du papier pour machine à écrire. Il en tira 11 poèmes que son ami avait écrits, les déchira lentement dans le sens de la longueur et de la largeur, puis les jeta à la corbeille. Quand ce fut fait, il se rassit sur le lit et regarda devant lui d'un œil morne. Il ne sut pas combien de temps il demeura ainsi figé, mais soudain, il vit une ligne d'horizon blanche se former dans son champ de vision. Étrange. Peu à peu, l'image se précisa. C'était un récif de corail fumant dans les clairs embruns du Pacifique. Entre les brisants, il aperçut une petite pirogue avec, à la poupe, un jeune dieu bronzé en pagne écarlate, manœuvrant une pagaie étincelante. Il le reconnut. C'était Moti, le plus jeune fils du chef Tati. Il était à Tahiti. Au-delà du récif écumant s'étendait le doux pays de Papara, avec la maison de feuillage du chef près de l'embouchure du fleuve. Le jour finissait et Moti rentrait de la pêche. Il guettait la vague pour rallier le rivage. Puis Martin se vit lui-même, assis à l'avant de l'esquif comme souvent par le passé, laissant traîner sa pagaie dans l'eau, attendant que le mur turquoise d'un grand brisant se souleva derrière eux pour souquer ferme sous les ordres de Moti. L'instant d'après, il n'était plus un spectateur regardant son double, mais ce double lui-même, à bord de la pirogue. Moti criait en cadence, ils tiraient tous deux sur leur pagaie, engagés dans une course folle avec la déferlante qui les entraînait. L'eau bouillonnante sifflait sous la coque, dispersant des nuées d'écume par les airs dans un fracas de cataractes. Un dernier roulement de tonnerre et bientôt, l'embarcation flotta paisiblement sur les ondes calmes du lagon. Moti éclata de rire en secouant les gouttelettes salées de ses yeux et ils pagayèrent ensemble vers la plage de corail où les murs de feuilles de Tati chatoyaient sous les rayons mordorés du soleil couchant entre les palmes des cocotiers. La vision s'estompa, et devant ses yeux, apparut le sordide désordre de sa chambre. Il essaya en vain de revoir Tahiti. Il savait qu'on y chantait sous les arbres et que les filles y dansaient sous la lune, mais il ne les voyait pas. Il ne voyait que la table jonchée de paperasses, l'emplacement vide de la machine à écrire et la vitre sale. Il ferma les yeux en gémissant et s'endormit.